de... La vie à peu près, Jean-Marie Félix.
La vie à peu près, Florence Grivel vous propose cette semaine une série d'entretiens avec le peintre Alexandre Loy. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Depuis lundi, Alexandre Loy déroule peu à peu son cheminement d'artiste en s'arrêtant sur quelques étapes importantes qui le jalonnent. Et cela donne aussi l'occasion à l'artiste de confier quelques réflexions personnelles sur la pratique de son art. Comme Georges Aldas prétendait entrer en état de poésie, Alexandre Loy, lui, déclare entrer en état de peinture pour se reposer la tête. Une déclaration poétique et sans doute très sincère de la part de ce grand rêveur qui n'a jamais hésité à emprunter un chemin de création à contre-courant de son époque. Dans les épisodes précédents, l'artiste a évoqué au micro de Florence Grivel son enfance passée dans un village valaisan, isolé de la rumeur du monde, sa formation aux Beaux-Arts de Genève, le pari ambitieux de vivre de son art et aussi quelques motifs qu'il travaille régulièrement dans ses toiles. Alors pour ce dernier épisode, il sera question d'une exposition qui s'est tenue en 2020 au manoir de Martigny et d'une monographie consacrée à l'œuvre de l'artiste. Voici donc le 5e et dernier épisode de La vie à peu près, selon Alexandre Loy.
Dernier épisode dans votre atelier, Alexandre Loy. Le creux de l'hiver, la sève est pourtant là, mais pas de feuillage, ni de fruits encore. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des creux, des déserts artistiques?
Ah, bien sûr. Mais j'ai un petit rythme biologique que je cherche toujours à comprendre. Et puis je cherche à accepter, je cherche à savoir ce que c'est. Il y a des moments, c'est à fond. Et il y a des moments, ça s'arrête. Puis autrement, il y a de l'entre-deux. C'est un peu la majorité du temps. Mais c'est vrai que d'un coup, il y a des trous, c'est comme je ne sais plus rien faire. Alors moi, je me souviens que pour faire un peu de lumière, il faut mélanger ça et ça. Dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a pas de recette, mais je sais un peu comment on peint. Mais ça ne rend pas. Je mets de la couleur sur ma toile, puis je vois que ça pourrait aller, mais ce n'est pas ça. Et puis je m'applique, Puis d'un coup... Mais des fois, ça prend plusieurs jours. Mais tout à coup, il y a un truc qui se déclare, c'est une toute autre affaire. Quand ça se déclare, moi, je suis en train de peindre un petit truc par là, ce côté, puis je vois qu'il faut mettre un point jaune de l'autre côté. D'un coup, comme ça, j'ai même pas réfléchi, c'est juste, je le vois. Là, on va mettre un point jaune. Là, c'est motivant. Plutôt parler des moments motivants, d'ailleurs.
Absolument. Mais c'est vrai aussi que plus je vous écoute, plus je me dis qu'il y a vraiment... Vous nous parlez de la peinture comme étant aussi une possibilité d'entrer dans un... Comment dire, un état de conscience tel qu'on peut aller ailleurs que dans le cerveau pensant, qu'on essaie de trouver un état vibratoire, de présence. Et là, n'importe quel chaman ou quelqu'un qui fait de la méditation, on peut employer les mêmes mots, au fond. C'est la même chose ou pas?
C'est possible. Moi, je m'y connais pas bien. J'entends des trucs des fois qui ressemblent à ça. Non, la seule chose dont je suis assez convaincu, je suis pas sûr, je m'y connais pas bien en neurologie, mais j'avais lu quelque part, j'avais trouvé ça fantastique. Il paraît que si on est concentré, notre cerveau utilise moins d'énergie. Donc, je me dépense pour entrer en état de peinture, pour me reposer la tête. Alors qu'elle travaille à fond la caisse, en fait, mais elle travaille d'une façon ordonnée. Elle travaille sur un objet. Alors qu'en fait, notre cerveau, il est tout le temps en train de s'égarer de tous les côtés. Il pense à plein de trucs. Il a des informations sur l'état du corps, la fatigue, la faim. Il pense à des choses qu'il ne devrait pas, des souvenirs, des trucs à faire, des pensées, des bribes de pensées, des trucs mal faits, mal finis. Et puis tout à coup, il y a un moment donné où, dans le travail, on peut être, c'est jamais 100%, mais on peut être la plus grande partie de soi dans une activité précise et qui est en train de se construire, donc en plus qui va vers l'inconnu. C'est génial.
Lorsqu'on parle d'art, on associe souvent le terme d'inspiration. Là aussi, un gros mot. Que pense le peintre Alexandre Loy de cette notion d'inspiration? J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans le muscle, hein, mais bon.
L'inspiration, c'est l'air, c'est ça? Oui, c'est clair que le mot, il existe. C'est clair qu'on me demande, t'as l'inspiration? Puis moi, comme j'aime pas faire comme les autres, puis j'aime pas conforter les lieux communs, j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir. Puis après, si je dis, ouais, c'est pas l'inspiration, on me dit, ouais, c'est vrai que l'art, c'est surtout du travail. Mais non. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Je suis obligé de reconnaître que ce qu'on a appelé inspiration, je pense, c'est quand même un truc qui existe à quelque part. Ce truc-là qui nous mène un peu plus loin que nous-mêmes. Ça existe, on le sent. Voilà. Après, moi, je cherche pas l'inspiration. Oui, voilà, voilà. Ça, on peut rajouter. Parce que souvent, les gens, ils disent, tu cherches l'inspiration. Donc, on va aller chercher des choses quelque part pour trouver l'inspiration. Puis ça, non. Alors, moi, j'ai l'impression que... Enfin, je cherche à ce qu'elle me tombe dessus. Je suis du genre à attendre la foudre au même endroit, disons.
Vous parliez tout à l'heure, Alexandre Loy, aussi de ces moments d'ennui. Alors, je sais que l'ennui, c'est quelque chose qui est finalement beaucoup plus fertilisant que ce qu'on a communément comme idée à propos de l'ennui. Vous, vous le vivez avec délectation ou c'est quand même un peu pénible?
Non, c'est pénible quand j'ai perdu. Si je sens que j'ai perdu ma faculté de peindre, alors ça dure 2-3 jours, c'est pas grave, mais quand même, c'est très pénible parce que c'est un peu toute ma vie qui s'absente. Alors elle disparaît pas vraiment, je sais que ça revient. J'ai appelé ça éclipse dans un texte. Hein. Il y a une éclipse. Non, je le vis rarement avec délectation. Mais je me suis dit, dans ce cas, je continue, en fait. Puis il y a un moment où ça revient, c'est tout. Sinon, je pense qu'on peut parler d'une autre forme d'on... Moi, j'appelle pas ennui, en fait. C'est, ça peut être rien foutre ou regarder ou laisser les choses nous atteindre. Ça, c'est chouette, c'est différent. Quand je m'ennuie, c'est que j'ai quitté ma vie. C'est comme si j'avais plus faim.
Ouais, c'est comme si vous étiez lâché la main, en fait.
Ouais, j'ai perdu ma main.
Et c'est important, une main, ouais. Pour un peintre. Vous avez publié justement votre première monographie en fin 2020, à l'occasion d'une grande expo au Manoir de Martigny. Cette expérience de publication, c'est vraiment une somme, hein. Qu'est-ce qu'elle vous a appris de vous, de votre travail? Comment vous êtes ressorti de cette publication?
Ah, et la première chose, j'ai dit... et les copains sont vachement chouettes, parce que j'ai sollicité pas mal d'amis pour participer, c'est-à-dire aider, que ça soit la mise en forme, le choix des images. Les gens sont intervenus à diverses étapes, et pas toujours à titre professionnel, quoi, des fois à titre amical. Et super de pouvoir vivre ça et sentir que c'est pas que mettre en valeur un travail qui existe déjà, mais que ça continue à être un truc humain, un truc dans l'échange, et que je suis pas obligé de faire mon livre totalement à mon image, mais qu'au fait je peux le faire en laissant les autres donner l'image de mon travail. Ça, je trouvais cool. Puis sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une grosse difficulté, ça fait longtemps que je me disais, faudrait faire un bouquin. Puis mon père me dit, faut faire un bouquin. Et puis chaque fois, je suis là. Ouais, mais pas maintenant, parce que dans un mois, j'aurais fini l'étoile super. Donc le bouquin, c'est une sorte d'arrêt sur un truc qui est déjà passé. Ça, c'est difficile d'accepter. Et justement, les amis, Yves notamment, qui m'a aidé à choisir les images, a bien vu.
Yves
Berger. Un copain qui est en Savoie, a bien vu et a bien poussé à dire « Non, t'es pas là en train de montrer tes derniers trucs. On prend un petit peu de recul, on prend un petit peu en arrière. Je sors les toiles que j'ai aimées de toi et dont je me souviens, qui me sont restées en tête. Et pas, le Alexandre Loy qui se voit plus les mains parce qu'il travaille tous les jours. » Intéressant comme expérience.
Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si vous avez un regard sur l'évolution de votre travail, de votre style.
Bien sûr. Oui. Il y a même des étapes. Je peux un peu définir des étapes. Je peux faire un peu un récit de ce qui s'est passé.
On pourrait entrer un
long.
Peu ouais, mais
un peu
oui,
long.
Mais...
Version express, ouais. Barbouillage, figuration, ensuite aux Beaux-Arts, observation, pendant assez longtemps. Et puis, il y a reset à cause des voitures. On a recommencé tout. J'ai fait de l'abstrait, j'ai fait du barbouillage. Comme j'ai toujours besoin que la peinture soit une figuration, j'ai commencé à regarder dans mon barbouillage s'il n'y avait pas des choses figuratives qui émergeaient. Donc il y a des signes qui sont émergés. les ronds, les carrés, mais c'est dire des bonhommes fil de fer si on veut. Ou... Et puis à partir de là, j'ai reconstruit une figuration. Ça, c'est début des années 2000. J'ai reconstruit une figuration d'abord très schématique. Puis au fur et à mesure des trucs que j'avais envie de représenter, ben, je faisais évoluer mes schémas pour qu'ils puissent faire des choses. Donc un bonhomme, c'est facile, mais un bonhomme avec une main, il faut rajouter un schéma de main au bonhomme. Puis après, un bonhomme avec une main qui tient quelque chose. On doit commencer à bosser un peu. C'est comme si on veut faire un bonhomme qui se brosse les dents. Faut faire autrement. Donc, depuis ces années 2000, à partir d'abstrait puis de signes, j'ai fait évoluer petit à petit vers une figuration de plus en plus complète, dans le sens qu'il y a de la spatialité, il y a de la lumière, il y a toujours des signes qui se baladent, mais il y a aussi des formes plus incarnées, on peut dire qu'il y a de la peau, on peut dire qu'il y a du tissu, on peut dire qu'il y a... Avec donc là-dedans des étapes importantes, peut-être c'est l'invention de l'espace. L'invention de l'espace, je me souviens exactement. Un signe, c'était un bâton avec un rond dans une toile un peu complexe avec d'autres signes qui étaient pas mal du tout, mais pas... Mon copain Yves aussi était venu, il m'a dit ouais, mais pas fini là. J'ai dit mais qu'est-ce que je peux faire? Et puis j'ai fait un triangle à côté de ce bâton, une surface triangulaire, mais c'était une ombre. Et j'ai dit ah, le signe dans l'espace, le signe en trois dimensions. Je faisais des signes de tête maison, puis je me dis c'est bête, elle regarde toujours droit devant. Ah, tout à coup je l'ai fait en trois dimensions. Un côté à l'ombre, ah, elle peut regarder à gauche, elle peut regarder à droite. Non, mais un truc au volume, bah, il peut bouger. Et donc ça, ça a été un moment assez chouette, parce que ça fait une sorte de mutation dans le travail, où voilà, toutes les limites qu'il y a, si on pense qu'en deux dimensions, bah, tout à coup, en trois, il y a plein d'autres choses qu'on pouvait faire. Qu'il y a des trucs devant, des trucs derrière.
À côté de votre activité de peinture, bah vous avez aussi une activité d'écriture qui est très importante. Vous avez fait plusieurs petites éditions où on entre comme ça dans vos carnets intimes, mais qui ouais. parlent toujours finalement de la vie et donc de la peinture. Est-ce que vous auriez envie peut-être de nous lire un extrait d'un de ces carnets pour qu'on entre un peu dans cet univers?
On peut, on
ouais.
peut.
Vous auriez quoi comme...
La coupe première, en fait.
Ah bah voilà, évidemment.
Je peux rien faire de plus.
Ah, ok. Alors vous sortez là. Alors là, pour le coup, c'est un... Ah bah voilà, c'est là-dessus. Donc c'est un... Vous écrivez toujours sur un bloc de papier. Hein.
Oui, j'écris. Donc il y a quand même une chose à dire, c'est que j'écris à la main sur des blocs à dessin. Puis je dessine plus assez, donc à la place, j'écris.
Et puis c'est une très très jolie écriture qui est parfaitement lisible.
J'essaye.
Il y a quelque chose...
Ouais, ouais. Il y a quelque chose de... J'essaye de penser que ma page d'écriture, c'est quand même un peu comme un dessin. Donc il y a le droit aux ratures et tout ça, hein, mais c'est réussi ou raté. Et puis la forme des lettres, la lisibilité et le rythme visuel essayent de se penser en même temps, puis ça réussit ou pas. Puis là, je sais plus, hein, mais j'y vais. Les fonds. Une bonne série de fonds avec une pointe de vert oxyde. Proche du verdaccio utilisé par les anciens dans les dessous. Courte journée. Travail principal sur l'épopée. Le camion se transforme de plus en plus en vache explicite. J'ai écrit « me » sur son dos, son chargement. Une tache blanche coule sur le sol, entre les roues. J'ai écrit « la vache allait » près du bord. Peu probable que ce genre d'ânerie puisse rester, mais... Et si c'était l'avenir? Autant tenter tôt. J'aimerais que des mots et des choses s'accumulent jusqu'à perdre leur aspect crucial. Des trucs écrits qui flottent dans l'air. Des significations verbales qui seraient plus impalpables que l'image. Mélange signes, significations, formes, sensations, apparences, lumière, récits, bégayements, micro, macro. Ne pas en rester au nerf de l'œil qui voit, pousser jusqu'à figurer le fourmillement de pensée et contre-pensée de celui qui serait l'œil qui voit.
Alors, ce qui est troublant, c'est que moi, cette peinture, bah, je l'ai vue, celle que vous décrivez, bah, elle est là dans votre atelier.
Et elle puis, sèche.
Elle sèche, et puis justement, ça m'a fait rire, ce jeu de mots, la vache allait. Ça m'a d'ailleurs beaucoup étonné que vous mettiez un titre comme ça avec cet humour potache, mais dont on comprend mieux dans le texte que justement, on va ailleurs de nouveau avec
ce mais c'est un mot. Camion aux vaches.
Mais oui, donc la
elle
vache
allait.
Allait, bien sûr, absolument. Mais... ouais, ça vous fait marrer, ça vous fait marrer. Mais moi aussi, ça me fait marrer.
Mais ça m'inquiète.
Ça va. Mais est-ce que on a la peinture, c'est forcément sérieux? On n'a pas le droit de rire un peu, justement?
Mais oui, non, c'est un truc qui va. Heureusement, je me suis rendu compte. Puis c'est l'héritage aussi un peu de la bande dessinée, hein. Mais je veux dire, quand j'ai fait les Beaux-Arts, je me suis dit, la peinture, c'est sérieux. Et puis alors, Morandi, contemplatif, j'aime beaucoup Morandi, hein, c'est fantastique. Mais je me suis dit, c'est pas pour moi, moi, j'y arriverai pas, je crois.
Il y a une gravité contemplatif,
sur Morandi, sérieux, métaphysique.
Des natures mortes absolument abyssales.
Et alors, le gag. Bon, le gag, il faut faire attention, parce que ça peut faire, vous mettez un gros nez rouge au milieu de la figure d'une toile, ça va pas, la peinture, elle doit aller plus loin que ça. Mais, se permettre à pousser du côté de l'humour, moi, ça m'a libéré beaucoup de choses. Puis souvent, j'avance trop, je rigole un beaucoup, après je recule. Puis je me dis, putain, c'était vachement précis. C'était sérieux, c'est des questions sur le monde dans lequel on vit. Que j'ai découvertes parce que je me suis permis de rigoler un coup.
Mais justement, ce monde duquel vous n'avez pas encore démissionné, enfin, vous êtes dans le monde, vous êtes aussi traversé, j'imagine, de tout ce qui se passe, de toute cette période aussi très bizarre que l'on vit. Qu'est-ce que vous en faites dans votre peinture? Parce que vous n'êtes pas en train de dépicter l'aujourd'hui, mais l'aujourd'hui doit quand même y être, j'imagine, dans vos peintures.
Pour moi, il y est. D'ailleurs, j'ai peint des choses. Moi, j'ai dit les voitures, j'ai peint des téléphones portables, j'ai peint des images dans des téléphones portables. Le monde, il y est, il essaye d'être assez proche du contemporain, mais sans exagérer. Parce qu'il y a ce qui reste. Il n'y a pas que ce qui est nouveau, il y a ce qui est là depuis longtemps. Et peut-être que j'aimerais essayer de trouver l'équilibre entre ce qu'on est, ce qui est là depuis longtemps, puis ce qui nous passe maintenant, ce qui nous arrive et ce qu'on ne comprend pas. Déjà une chose. Des fois, je suis un peu acide, un peu acerbe. Après, je recouvre ça avec la belle lumière. Je bouge, moi, selon l'étoile. Il y en a qui sont contemplatives, il y en a qui vont être plus brutales ou violentes, il y en a qui vont être drôles, il y en a qui font appel à des émotions de peur, il y en a qui font appel à la joie. Enfin, il y a vraiment différentes choses. Pas tout à voir, mais il y a différentes choses. Et puis, ce que j'ai pensé d'important, c'est quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, c'est que probablement qu'il y a une conciliation qui se fait par la forme, la couleur, la matière, il y a une conciliation qui se fait entre le terrible, l'inquiétude, l'affreux d'en être là où on en est. On n'est pas sûr qu'on va durer très longtemps, nous humains, ici. Il y a quand même des théories qui circulent qui sont assez alarmistes. Et donc là aussi, la révolte. Et puis en même temps, la beauté du monde, la beauté d'être en vie. Et je pense que c'est important d'avoir cette conciliation. Parce qu'en fait, j'aimerais bien dénoncer puis dire c'est affreux pour faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour moi, c'est la relation de ces choses. On ne peut pas dénoncer sans aimer, en fait. On ne peut pas dénoncer sans aimer, on ne peut pas être révolté sans aimer.
Cette pratique de l'écriture, comme vous venez de nous lire une page de votre carnet quotidien. Donc vous faites de la peinture et vous parlez ensuite de ces peintures. Vous parlez aussi parfois de certains événements, micro-événements qui arrivent dans votre vie. Mais qu'est-ce que vous apporte l'écriture que ne vous apporte pas la peinture et réciproquement?
On parlait des maths avant, alors ça, bon, c'est oublié. Mais on va dire cet esprit quand même rationnel, qui veut penser les choses avec les mots, etc., etc. Il est chez moi terriblement présent. En fait, peindre, c'est presque une lutte contre ça. Puis, si ça se trouve, écrire, ça me soulage, c'est-à-dire que je me permets là de réfléchir, d'énoncer les choses, de y redonner un semblant de logique. Je pourrais me contenter de voir que c'est arrivé, mais non, j'essaye de l'expliquer, de me l'expliquer. Puis,
non, mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de rature. Donc il y a une écriture qui est très souveraine, le fil.
Mais ça, on parlait de la méditation, ouais. Bon, première chose, donc ça à voir. Deuxième chose, j'ai fait un effort de transformation, puis j'incite tout le monde à faire ça si vous voulez écrire. Tout le monde croit qu'il faut écrire vite parce qu'il faut suivre la pensée. On pense vite, on essaye de la suivre. Puis moi j'ai fait une opération inverse, parce que j'y arrivais pas. J'ai dit, il faut ralentir ta pensée. Tu ralentis ta pensée, tu ralentis ton écriture jusqu'à un moment où tu trouves le rythme où les deux choses vont ensemble. C'est juste ça qui se passe. Alors ça apporte, c'est comme la peinture, c'est un état de concentration. Que j'aime tellement que du coup je suis prêt à raconter des trucs pas intéressants dans mon carnet histoire de pouvoir passer un moment à former des lettres du bout de la plume.
Peut-être encore restons sur cette histoire de l'écriture, d'une écriture qui se fait peut-être pas le reflet mais qui raconte des toiles en cours. Est-ce que c'est une manière aussi pour vous peut-être de contrôler un peu la lecture qu'on pourrait en faire nous? Parce que vous pourriez parler de toute autre chose.
Très bonne question. J'aimerais bien parler plus de toute autre chose. Premier point. Contrôler la lecture, non. Moi, ça me plairait bien de jamais rien dire. Quand on me demande, ça veut dire quoi? Ça me plairait bien de pouvoir... Enfin, qu'on me demande pas, en fait. Mais par contre, moi, je me le demande. Du coup, je l'essaie de le formuler.
Oui, vous le formulez, mais vous le publiez aussi, donc vous nous l'offrez aussi. Pas tout,
ouais,
hein,
ouais, 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 ouais. En même temps, alors, c'est aussi une manière d'attester que je suis passé par ce chemin, qu'il y a eu cette possibilité, qu'il y a eu cette idée, qu'il y a eu cette piste. Et en partie, parce qu'on peut croire que c'est pour les autres, mais c'est vrai qu'en partie, c'était aussi pour moi. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à avoir cette écriture-là, dans cette pratique-là, c'était quand même dans une période un petit peu où je commençais un peu à me perdre, aussi socialement en fait. Je savais plus trop où mon travail allait aller, j'avais plus trop d'écho, j'étais un peu tout seul. Et puis, j'avais besoin de me voir. Voilà, c'est pour
donc
ça.
Mais donc le rapport aux autres, vous suffisait pas, c'est vous qui deviez vous voir.
Ouais, parce que je voyais pas beaucoup d'autres aussi. Puis les autres ne voyaient pas. Non, parce que c'est ça qu'il faut dire à ce moment-là. Les autres, je pouvais les voir, mais eux, ils ne me voyaient pas. J'exagère. Je suis un bon copain. On peut aller faire une petite partie de backgammon avec Stéphane et tout ça. Mais moi, si je suis terrorisé pendant des mois parce que je n'arrive pas à avancer au niveau de mon travail, je ne peux pas le partager vraiment. Je peux le dire, mais je ne peux pas le partager. Et puis si je pressens des choses où le sens est en train de naître, mais que j'arrive pas encore à le formuler, tout ça, c'est pas les gens qui viennent à une expo qui m'aident à ça. Donc voilà, là il y avait un endroit, une matière, un moyen en fait de soulager un peu ce poids, puis de dire ah oui, ben je suis en train de pouvoir quand même matérialiser des trucs qui sont encore flous, encore en train de naître, voire une catastrophe qui est en train de se produire.
On arrive au terme de ce cinquième épisode avec vous, Alexandre Loye. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on a beaucoup parlé justement peinture, processus, présence, physiologie. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de fin, de conclusion qui ferait joli finalement dans cette cinquième partie. Mais peut-être que vous, étonnamment, vous allez transgresser et peut-être que vous allez nous offrir un point d'orgue avant la musique.
Non, pour moi, il n'y a pas de conclusion. Je pense qu'on va aller. On va juste aller directement à la musique. Puis en plus, c'est bien, c'est pour introduire. On ne sait pas trop ce que ça fait là. Petit morceau de Tom Waits, On the Road to Peace, qui parle d'Israël et de Palestine.
Bonne suite, bonne route, Alexandre.
À vous aussi, merci.
Bye bye.
the punk. Your shit, yeah. Israel says, isn't a mouse senior militant? And Israel sent four choppers in, flames and gold, tears wide open, and it killed his wife and his three-year-old child, leaving only blackened skeletons. They found his toddler's bottle and a pair of small shoes, and they waved them in front of the cameras. But Israel says they did not know that his wife and child were in the car. There are roadblocks everywhere, and only suffering on TV. Neither side will ever give up their smallest right along the road to peace. Israel launched its latest campaign against Hamas on Tuesday, and 2 days later Hamas shot back and killed five Israeli soldiers. Those thousands dead and wounded on both sides, children full of hate to fight an old man's war and die upon the road to peace. Now this is our land, we will fight with all our force, say the Palestinians and the Jews. Each side will cut off the hand of anyone who tries to stop the resistance. Sharon have been lost out along the road to peace. Once Kissinger said, we have no friends, America only has interests. Now our president wants to be seen as a hero, and he's hungry for re-election. But Bush is reluctant to risk his future in the fear of his political failure. So he plays chess at his desk and poses for the press 10,000 miles from the road to peace. In the video that they found at the home of Abdel Mahdij Shabne, he held a Kalashnikov rifle and he spoke with a voice like a boy. He was an excellent student, he studied so hard, it was as if he had a future. He told his mother that he had a test that day out along the road to peace. The fundamentalists killing on both sides, standing in the path of peace. But tell me, why are we arming the Israeli army with guns and tanks and bullets? And if God is great and God is good, why can't he change the hearts of men? Or maybe God himself is lost and needs help. Maybe God himself, he needs all of our help. Maybe God himself is lost and needs help. He's out upon the road to peace. Maybe God himself is lost and needs help. Maybe God himself, he needs all of our help. And he's lost upon the road to peace. And he's lost upon the road.
Il y a presque de la chanson de geste dans cette longue chanson de Tom Waits, parue en 2006 sur l'album Orphans. Elle aussi fait partie de la playlist d'Alexandre Loy, l'invité de La Vie à peu près tout au long de cette semaine, au micro de Florence Grivel. Si vous souhaitez maintenant revenir à l'un ou l'autre de ces entretiens ou les télécharger, eh bien vous vous rendrez sur PlayRTS, plateforme où il reste à votre disposition. La semaine prochaine, Isabelle Carcelès vous proposera un long entretien avec la photographe, vidéaste, plasticienne romande, Catherine Kfeller. Dans les médias pour aller jusqu'à l'heure, Luc Thérapon vous propose une programmation d'œuvres musicales tirées du répertoire de la première moitié du XXe siècle. Voici tout d'abord quelques pages tirées des danses symphoniques West Side Story, partition signée Leonard Bernstein, l'orchestre de la Suisse romande déplacé sous la baguette énergique de Pinchas Steinberg. Thank you. Pinchas Steinberg, à la tête de l'orchestre de la Suisse romande, livrait là son interprétation du 7e tableau des danses symphoniques West Side Story, une suite orchestrale que Leonard Bernstein a composée 4 ans après la création de son drame lyrique à Broadway. Piano solo maintenant, voici 3 pièces tirées de Vision fugitive, une suite de Sergueï Prokofiev. Vadim Khodolenko est au clavier. Vision fugitive, suite pour piano de Prokofiev, le pianiste ukrainien Vadim Khodolenko en interprétait 3, les pièces numéros 16 à 18. Et nous poursuivons cette traversée musicale avec une suite pour orchestre de Manuel de Falla. Voici le 5e tableau de Hommage, interprété par l'Orchestre Philharmonique de la BBC, sous la direction de Juanjo Mena. Thank you. Le BBC Philharmonic Orchestra de Londres donnait une belle vivacité à cette partition tirée de Hommage, suite orchestrale de Manuel de Falla. Et nous allons rejoindre 13h avec le quatrième mouvement final du quintet pour deux violons alto et deux violoncelles en fa majeur du compositeur allemand Felix Draeseke. Le Breuninger Quartet s'en fait l'interprète. Nous allons nous quitter avec cette partition de Felix Draeseke. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est Nicolas Julliard qui vous accueillera à l'enseigne de La Vie à peu près. Merci aussi à Florence Grivel, Sophie Grécuccio, Sophia Muller et Luc Thérapon qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Je vous souhaite de passer un bel après-midi.
Il paraît qu'il ne se passe jamais rien en Suisse. Avec 1001 archives, on aimerait vous prouver le contraire. On vous propose donc d'embarquer pour une série de voyages dans le temps à travers des histoires vraies, surprenantes, qui se sont passées près de chez vous.
Il n'y a plus rien, tout était dévasté, on voit que la neige a rempli cette cuvette.
Au cours de ces voyages, vous rencontrerez des vignerons qui tirent au fusil contre des hélicoptères, des autonomistes poseurs de bombes, un gourou mégalomane et plein d'autres personnages surprenants.
Mais du pognon, mais je te le donne le pognon, mais rends-moi ma gosse, merde.
Laissez-vous surprendre par le passé grâce à ces récits richement illustrés par des extraits d'archives de la radio-télévision suisse.
Des voyages dans le temps à découvrir sur Play RTS, Spotify ou sur vos plateformes de podcast habituelles.